Journal d'Alexis Morel, bonjour.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous. 80 Françaises, 200 enfants encore détenus dans les camps de réfugiés en Syrie. La Cour européenne des droits de l'homme se penche aujourd'hui sur le cas de deux d'entre elles, des femmes de djihadistes que la France a toujours refusé de rapatrier. Les enjeux dès le début de ce journal. L'armée américaine reconnaît un échec stratégique en Afghanistan. Un mois et demi après la prise de Kaboul, les talibans, eux, n'ont toujours pas rouvert les collèges et lycées pour les filles. Nous sommes sur place, reportage à suivre. Dans ce journal aussi, ces restaurants en mal de serveurs qui aménagent les horaires de travail pour attirer les candidats et le retour de métal hurlant des années après sa disparition des kiosques.
Et au micro de Léa Salamé dans 20 minutes, l'historien Johan Chapoutot qui publie le grand récit introduction à l'histoire de notre temps. C'est aux éditions PUF. Elles sont bloquées dans des camps avec leurs enfants et Paris n'a jamais voulu les faire revenir.
La France enfreint-elle les droits humains en refusant de rapatrier des femmes et leurs enfants de Syrie? Question posée aujourd'hui à la Cour européenne des droits de l'homme à Strasbourg. Elle va se pencher donc sur les requêtes déposées par deux familles de Françaises parties avec leurs compagnons djihadistes. Là-bas, elles ont eu des enfants et sont retenues depuis dans des camps tenus par les Kurdes. C'est après une longue bataille judiciaire en France que leurs proches se tournent donc vers la Cour européenne, Laurélie Carrive.
Deux, on ne connaît que leurs initiales, mais pour ces deux couples, l'histoire est la même. Partis rejoindre Daesh en 2014 et 2015, leurs filles sont aujourd'hui détenues au sein du camp de Halol, dans le Kurdistan syrien, et avec elles, leurs jeunes enfants âgés de 2 à 6 ans. Jusqu'ici, Paris a fait la sourde oreille à leur demande de rapatriement, explique ne pas avoir de contrôle sur ce territoire. Mais pour l'avocate des deux familles, la France piétine plusieurs de ses engagements fondamentaux, parce qu'elle empêche ses ressortissants d'entrer sur le territoire national, mais aussi parce que la Convention européenne interdit les traitements inhumains ou dégradants. Or, selon Maître Marie Dauzet, c'est bien ce qui se joue ici pour ces enfants et leurs mères.
Sans l'argent que les grands-parents envoient dans ces camps, ils ne peuvent pas manger à leur faim, ils ne peuvent pas se soigner, ils ne peuvent pas s'habiller. Et puis des conditions de vie terribles, 46 degrés l'été, moins 12 l'hiver, et des tentes et rien. Ils vivent des traitements inhumains et dégradants, alors même que les Kurdes demande à la France de rapatrier ses enfants et leur mère. N'oublions jamais ça.
Marie Dauzet rappelle qu'en cas de retour sur le sol français, les deux mères de famille seront remises à la justice. Jusqu'ici, seule une trentaine d'enfants, orphelins pour la plupart, ont été rapatriés par la France.
Laurélie Carrive, service police-justice d'Inter. Lui combattait les djihadistes au Sahel. Hommage national cet après-midi au caporal-chef Maxime Blasco, tué au Mali la semaine dernière. Un homme au parcours exceptionnel, selon l'armée. La cérémonie débutera à 16h30 aux Invalides. À Paris, présidé par Emmanuel Macron. On va y revenir dans le journal de 8h. Et retour ce matin dans un pays où il n'y a plus justement de soldats occidentaux depuis cet été. L'Afghanistan, où le régime taliban réimpose progressivement sa loi, notamment dans les établissements scolaires. Collèges et lycées sont toujours fermés aux filles. Le nouveau pouvoir afghan veut y imposer la non-mixité, comme à l'université. C'est le reportage à Kaboul de Valérie Crova.
L'école Zarouna a accueilli l'an dernier 8000 filles. Elles ne sont plus que 2000. Sont autorisées à venir en classe uniquement les plus jeunes, celles qui ont entre 7 et 13 ans. Pour les autres, la directrice de l'école nous dit qu'elle attend la décision des talibans. Ces derniers ne cessent de répéter que l'éducation est une priorité, sans toutefois annoncer des mesures claires pour la réouverture des collèges et des lycées pour filles. Ce professeur de mathématiques s'impatiente et ne mâche pas ses mots.
Tout le pays s'inquiète de savoir pourquoi ils ne laissent pas les filles revenir à l'école. Le gouvernement nous dit qu'on doit préparer des classes séparées pour les filles et les garçons, mais on n'a pas le temps de trouver des enseignants pour toutes les classes. Ma sœur enseignait dans une école pour garçons, mais les femmes n'ont plus la permission d'enseigner aux garçons. Les talibans sont des gens ignorants. Ils doivent donner l'opportunité aux filles d'étudier. Elles ont beaucoup de rêves, elles veulent travailler, elles veulent étudier, mais maintenant les talibans les empêchent d'aller à l'école.
Durant les 20 ans qui ont suivi leur départ en 2001, le taux d'alphabétisation des femmes, qui composent la moitié de la population afghane, a pratiquement doublé, les rendant plus libres, plus indépendantes. Aujourd'hui, les femmes afghanes sont suspendues au bon vouloir des talibans. Kaboul, Jérémy Thuil, Valérie Crova, France Inter.
L'Afghanistan où les États-Unis reconnaissent donc un échec stratégique en raison, je cite, d'erreurs de jugement. C'est l'aveu hier du chef d'état-major américain devant les élus du Sénat à Washington. Washington. Toujours pas d'accord sur les droits de pêche entre la France et le Royaume-Uni, alors que des dizaines de licences de pêcheurs français expirent demain soir. Depuis le Brexit, ils en ont besoin pour avoir le droit de travailler dans les eaux britanniques, mais aussi autour des îles anglo-normandes. Au mieux, Jersey et Guernesey vont renouveler des licences provisoires pour quelques mois. Le gouvernement français dénonce ce matin un nouveau refus des Britanniques de respecter l'accord du Brexit. Cela fait des mois que les patrons de bars et de restaurants le disent, il manque de bras. Et bien pour la première fois, des chiffres officiels le confirment. Le secteur de l'hôtellerie-restauration a perdu 237 000 salariés entre février 2020 et février 2021, donc depuis le début du Covid. La crise de recrutement est majeure. Alors pour tenter d'attirer des candidats, certains établissements réduisent les contraintes de certains postes, comme la traditionnelle coupure de 3 heures entre les deux services. Exemple là à Lyon avec Christophe Vincent.
Dans cette chaîne lyonnaise à thème, bière, burger, musique, 38 salariés avaient démissionné à la réouverture le 19 mai, un gros tiers de l'effectif. Les nouvelles recrues enchaînent leurs heures sans coupure, 5 jours d'affilée. Léo Billon, serveur depuis 2 ans.
Moi, justement, pas avoir 70 heures avec des heures sup de malade sans jamais forcément être payé, ou alors ça arrive tardivement après plusieurs mois. Ici, au moins, on fait nos horaires, on est payé au premier jour du mois. On a accès à tous les mêmes avantages qu'une entreprise lambda, sans les gros désavantages de la restauration.
Et ça marche, le Ninkasi recrute à nouveau 40 personnes. Alexandre Boin gère les 9 succursales.
Nous, on a décidé de supprimer la coupure, que les salariés retrouvent un équilibre vie pro, vie perso. On a très peu de personnes du métier qui viennent postuler. C'est surtout des gens qui sont pour la plupart étudiants. On a beaucoup, beaucoup de demandes de mi-temps. Très peu de temps plein. Et la priorité, justement, c'est d'arriver à s'adapter, à adapter les horaires à leur vie perso, mais surtout à leur vie universitaire, et d'arriver à trouver l'équilibre entre les trois.
La chaîne forme ses recrues. Elle y consacre 10% de sa masse salariale. Lyon, Christophe Vincent, France Inter.
On ne vient pas pour témoigner, mais pour gagner. Les mots de Yannick Jadot, 20h de France 2 hier, après sa victoire à la primaire écologiste contre Sandrine Rousseau. Le candidat, désormais intronisé, lancera sa campagne présidentielle dès demain avec un premier déplacement en Savoie. Ils ont essuyé les plâtres de la réforme des études de santé l'an dernier. 40 étudiants en médecine de l'université Paris-Descartes s'estiment floués. En juin, ils ont été recalés en fin de première année, alors qu'ils dépassaient tous 14 sur 20 aux épreuves écrites. Mais c'est l'oral, toute nouvelle discipline, qui les a pénalisés. D'autant qu'il a finalement compté pour 70% de la note finale. Véronique Julia, vous avez rencontré une étudiante concernée, Charlotte. Elle assure que l'université, comme le ministère, reste sourd à ses demandes. Elle ne sait plus vers qui se tourner.
C'est une bonne élève, elle a travaillé dur et en mars dernier, elle termine 298e des épreuves écrites de première année sur un total de 2500 étudiants avec 14,5 de moyenne générale. Au mois de juin, quand arrivent les épreuves orales, Charlotte est tout près du but, elle pense donc avoir toutes ses chances.
Je me dis, c'est jouable, ça devrait le faire.
En juillet, pourtant, à l'annonce des résultats, Charlotte n'entre pas dans le classement, recalée à cause de 2 oraux où elle n'a pas démérité, elle a eu 16 et 13.
En fait, on se rend compte qu'ils ont mis une pondération qui fait que l'oral passe à 70% de la note. Donc je perds plus de 260 places.
2 oraux de 10 minutes qui n'exigeaient pas particulièrement de préparation, certains sont même tombés sur des sujets portant sur l'agriculture ou le racisme, compte finalement pour les 3/4 de la note finale, ce qui n'était pas clairement annoncé au départ.
Grosse désillusion, j'apprends que des personnes qui étaient au-delà de millième après les écrits sont passées, c'est assez dur.
Charlotte n'en veut pas à ceux qui sont passés grâce à ce coefficient pour l'oral, elle veut juste qu'on reconsidère son cas et celui de 39 autres recalés comme elle, avec pourtant de très bonnes notes d'écrits qui ont sanctionné 8 mois de travail acharné.
C'est une goutte d'eau 40 et en plus on a fait nos preuves. Personne ne veut nous recevoir, on a envoyé des tas de mails, on a eu zéro réponse.
Quoi qu'il arrive, Charlotte veut être médecin et rien d'autre. S'il le faut, dit-elle, elle ira apprendre le métier à l'étranger, en Roumanie, Belgique ou Espagne.
Et le ministre de la Santé aura peut-être l'occasion de lui répondre ce matin. Olivier Véran est l'invité du grand entretien sur Inter à partir de 8h20. Le projectile lancé hier par la Corée du Nord était un missile planeur hypersonique selon Pyongyang. Le régime nord-coréen se félicite ce matin d'une avancée technologique majeure. Ces missiles hypersoniques sont beaucoup plus rapides que les balistiques et aussi bien plus difficiles. difficile à intercepter par les systèmes de défense.
C'était une revue mythique des années 70 et 80. Il est 7h40. Métal Hurlant est de retour.
Oui, bonne nouvelle pour les nostalgiques de ce magazine de bande dessinée de science-fiction. Il revient donc en kiosque aujourd'hui sous forme trimestrielle. Près de 300 pages pour ce premier numéro. Alors Marion Ferrer, ce n'est pas la première fois que des passionnés tentent de relancer Métal Hurlant, mais cette fois on peut dire que c'est la bonne.
Sur la couverture, un couple, un robot et une femme dans ses bras, un bébé en métal qui hurle, le clin d'œil s'arrête là.
C'est impossible de refaire le Métal Hurlant des origines, donc on sait qu'il y a des gens qui nous attendent un peu au tournant, mais moi j'ai envie de leur dire, Métal Hurlant c'est ce qu'on en fait.
Pour Vincent Bernière, le rédacteur en chef, pas question de regarder en arrière, Métal Hurlant a des choses à nous dire. Aucun tabou, bien sûr. Le style est toujours aussi franc dans les BD et dans les articles.
On a des passes sanitaires, on doit porter des masques. C'est de la science-fiction. L'auteur qui avait imaginé ça il y a 2 ou 3 ans, il faisait de la science-fiction. Même l'auteur qui parle du monde d'aujourd'hui, on dirait qu'il fait de la SF. Et dans le rédactionnel, on donne des clés pour comprendre justement d'où ça vient.
Qui dit nouvelle formule, dit nouvelle signature. Moebius, Paul Guillon ou encore Jacques Tardy laissent place à la nouvelle génération. Hugo Bienvenue a dessiné la une.
Mes parents avaient le numéro 1 de Métal Hurlant. C'est le seul Métal Hurlant que j'ai jamais eu, je crois, et que j'ai jamais lu. Mais en même temps, c'était pas mal de pas non plus connaître trop pour pouvoir venir exercer de manière assez libre et sans la pression. Justement, Métal, c'est le lieu des erreurs, c'est le lieu des tentatives compliquées, sans parachute, quoi.
Pour les nostalgiques, il faudra patienter jusqu'au prochain numéro, dirigé et commenté par Jean-Pierre Dionnet, le créateur de Métal Hurlant.
Ben voilà, en plus, le meilleur est à venir. Pour voir en image à quoi ressemble ce nouveau Métal Hurlant, rendez-vous sur franceinter.fr.
Merci Alexis Morel. La politique assure.